Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne d'Alternante. C'est notre rendez-vous mensuel en compagnie de Valérie Mazot. Bonjour Valérie.
Bonjour Daniel.
Alors aujourd'hui, un nouvel auteur qu'on va vous faire découvrir. Certainement quelqu'un que vous connaissez du moins par le nom, peut-être pas forcément par tout ce qu'il a écrit. Donc on va vous encourager à la fois le découvrir et puis découvrir ce qu'il a écrit depuis un certain nombre d'années, puisqu'il en est déjà à plusieurs romans. Et cet auteur, Valérie, c'est...
Sorge Chalandon, voilà, donc le prénom Sorge, on se posait la question à l'instant, hein, Daniel, c'est un prénom peu ordinaire, hein. Sorge, ça s'écrit S-O-R-J, et d'ailleurs son deuxième prénom c'est Georges, il va y avoir un Georges dans voilà, un de ses romans, et tu en parleras. Voilà, Sorge Chalandon, d'ailleurs j'ai cherché les origines de ce prénom hors du commun, avec un accolé un nom de famille assez français, hein, Chalandon, on en connaît tous. En tout cas, Sorge Chalandon est un des auteurs français qui a été le plus reconnu, hein, ces dernières années, avec un premier roman qui a été salué par la critique, hein, Le Petit Bonzi, et puis un prix Médicis en 2006, et d'autres romans qui sont venus.
Voilà, c'est ça, j'allais dire que pratiquement tous ces ouvrages ont reçu des prix, hein, qui est le dernier, hein, celui que j'aborderai tout à l'heure, Le Quatrième Mur, a reçu, lui, le prix Goncourt des lycéens.
Oui, c'est ça, prix Goncourt des lycéens, tout récemment. Moi, j'évoquerai celui qui a reçu le prix Médicis en 2006, Une promesse, qui est un livre, qui est un roman, qui est un petit peu à part, d'ailleurs, dans l'écriture de Sorge Chalandon, parce que Sorge Chalandon est avant tout un journaliste, grand reporter. Donc, il a beaucoup écrit sur les guerres.
Voilà, absolument. Voilà. C'est ce qui transparaît d'ailleurs dans un certain nombre de ses ouvrages. Hein. Justement, dans les premiers, il y en a qui touchent à l'Irlande notamment. Hein. On va les citer. Hein.
Voilà, l'Irlande, le Liban. Alors en fait, Sorge Chalandon, qui est né à Tunis, de famille française, il a 61 ans aujourd'hui. Il a eu un parcours pas forcément ordinaire au départ, puisqu'il n'était pas journaliste. Il est arrivé.
C'est pas quelqu'un, je crois, qui a fait l'école de journalisme. Hein,
Quand il dit lui-même que quand il est arrivé au journal Libération, il y a, en 73 et jusqu'en 2007, donc il a fait une grande partie de sa carrière à Libé, il est arrivé à l'époque où. Peu en fait de journalistes étaient des journalistes professionnels sortant d'une école de journalisme, et lui il était infirmier, il venait de l'univers psychiatrique et il se plaît à dire avec beaucoup d'humour et de reconnaissance que finalement il quittait un asile pour un autre puisqu'un journal comme on l'imagine, c'est effervescent, c'est une véritable ruche, c'est voilà, des cris, une urgence qui n'est jamais satisfaite et voilà, et tout le monde qui essaye de crier sur l'autre pour que les délais soient tenus sur une actualité voilà, à tenir en haleine. Donc voilà, infirmier psychiatrique au départ. Donc Libération, d'ailleurs quand il est rentré à Libé, il n'était pas journaliste, auteur, et il a créé une bande dessinée. Hein, voilà. Et donc il est resté... très longtemps. Libé, ça a été vraiment son média le plus important. C'est comme ça qu'il est allé aussi sur différents fronts. On va en parler. Bon, depuis 2009, il est au Canard Enchaîné. Voilà, il reste bien sûr dans la presse. Et il dit bien que tout ce qu'il écrit nourrit ses romans. Tout ce qu'il voit en tant que journaliste nourrit ses romans.
Absolument. On verra tout à l'heure justement à quel point à quel point il a pu transmettre dans ses livres ce qu'il avait vécu et ce qu'un journaliste peut justement transmettre, et à quel moment aussi un journaliste craque, je dirais, quelque part, puisqu'un journaliste en général, on le voit, retransmet à peu près, essaye du moins le plus correctement possible de dire ce qu'il voit, ce qu'il entend. Après, c'est un autre pas à franchir que d'aller, de donner vraiment son opinion personnelle dans ce qui peut être vécu, notamment sur tous les théâtres de conflits qu'il a vécu, hein, puisque c'est l'Irak, c'est le Liban, on verra dans le livre le quatrième mur, donc Beyrouth. Après, il a aussi connu l'Afghanistan, la Somalie. Quand ce sont des noms, quand on en parle, ce sont que des lieux de guerre où il y a eu notamment beaucoup d'exactions, beaucoup de massacres.
Oui, donc il dit d'ailleurs lui-même, et ça peut intéresser tous les gens qui écrivent, voilà, en tant que journaliste, alors il a toujours un petit cahier avec lui, et sur la page de droite, il consigne tout ce qu'il voit en tant que journaliste, c'est-à-dire les descriptifs, les faits, les lieux, hein, voilà, donc il a tous ces éléments factuels sur sa page de droite. Et sur la page de gauche, il met toutes les émotions et tous les ressentis qu'il a. Donc il y a la page du journaliste et il y a la page de l'auteur. Voilà. Ouais. Et effectivement, cette liberté de l'auteur, il a eu besoin à un moment donné de l'exprimer, puisque bien sûr le journaliste ne pouvait pas.
Voilà, ça il l'exprime complètement dans ce dernier livre, Le quatrième mur, que je présenterai tout à l'heure. Toi, tu as choisi un livre un peu différent qui est dans ses premiers livres même. Hein,
voilà. Alors voilà, en fait, donc Sorge Chalandon a écrit son tout premier roman, c'est Le petit Bonzi, qui est vraiment un roman autobiographique qui parle du bégaiement. Il explique que ça a été une des grandes souffrances de son enfance. C'était un enfant qui bégayait. Et bien sûr, à l'époque, hein, il a 61 ans aujourd'hui, donc 55 ans en arrière, on imagine bien, le bégaiement était considéré comme comme quelque chose d'anormal. On l'a bien sûr culpabilisé, forcé à ne plus bégayer, donc ça a été pire. On l'a forcé aussi à écrire de la main droite alors qu'il était gaucher, etc.
Ça, c'était le remède qu'on essaye d'employer souvent, hein. C'est assez affreux.
Oui, c'est ça. Donc il a vécu ce véritable traumatisme, hein, avec, comme il dit très bien aussi, la cruauté dans la cour de l'école, puisque l'enfant qui bégaye, en plus, ne peut pas se défendre. Par la parole, donc il est ridiculisé, il n'a pas le droit de réponse. Donc une grande souffrance qui est vraiment au cœur de ce premier roman, qui pour lui a été une libératoire de pouvoir en parler. Il disait d'ailleurs, quand il était enfant, c'était un tel blocage pour lui. Il savait qu'il y avait des herbes un petit peu magiques qui pouvaient tout soigner. Et en bas de chez lui, il avait trouvé des herbes et il s'était mis à les manger, en se disant que ces herbes-là, peut-être, pouvaient soigner aussi quelque chose, et notamment son bégaiement. Il a cherché toutes les solutions. Alors, il dit qu'il en est sorti, déjà alors avec le petit Bonzi, parce que quand il a été vraiment très reconnu dès la parution de ce premier roman, il a fallu qu'il aille en parler, faire la promotion à la radio, à la télé, et là, il s'est dit, comment vais-je gérer mon bégaiement? Et puis, ben, finalement, comme c'était au cœur de son vécu, il n'y a pas eu de bégaiement du tout. Donc voilà, pour lui, ça a été vraiment quelque chose qui a débloqué cette situation, ce complexe ancien. Et voilà. Et puis, il dit qu'après, il n'a pas fait d'école particulière, hein, puisqu'il y a des instituts qui proposent aux enfants ou aux adultes qui bégaient de soigner ça. Il dit que c'est avec beaucoup de temps et d'amour qu'il a réussi à se soigner.
Tu as dit un mot tout à fait vrai, tout à l'heure, qui est libératoire, hein, puisque il va s'en sortir par lui-même là. Et puis, libératoire va être aussi ce que tu disais tout à l'heure, lorsque le journaliste note ses informations d'un côté et ses impressions, ses sentiments de l'autre, ça va être ce qu'on retrouve complètement dans son dernier livre. Mais avant d'y venir, on peut revenir peut-être sur ses autres livres, oui, aussi touchant aux actualités de certaines époques, notamment le conflit irlandais, nord-irlandais.
Voilà, donc Le Petit Bonzi, premier roman de Sorge Chalandon, roman autobiographique, vraiment une révélation pour le journaliste qu'il était, une révélation en tant qu'écrivain. Et son deuxième roman, Une promesse, que je vais présenter, qui a eu aussi une très belle reconnaissance, puisqu'il a reçu le Médicis, hein, l'année de sa sortie, en 2006. Et Sorge Chalandon, très humble, hein, dans ce qu'il fait, a dit, bon voilà, c'était enfin un roman d'adulte que j'écrivais, et à 54 ans, il était peut-être temps que je l'écrive d'ailleurs. Et là, on est dans un univers qui n'est pas encore cet univers de la guerre, hein, et de la problématique des guerres. C'est un roman qui est tout à fait intimiste, tout à fait à part, et qui est très très beau. C'est un roman qui est hors du temps. Ça se passe dans un petit village de la Mayenne que je connais bien, qu'on connaît bien. Et puis, voilà, c'est une ambiance du village avec des gens très simples. Ce sont sept amis du village. Il y a Bosco, il y a Berthevin, il y a différentes personnes qui ont fait une promesse au décès d'un couple qui a été au cœur de leur vie, au décès de Fauvette et Étienne. Ils ont fait la promesse qu'ils iraient tous les jours dans leur maison, ouvrir les volets, mettre la table, faire un tour de jardin, pour continuer à faire vivre ce couple qui a été au cœur de leur vie. Voilà. Donc il y a une promesse qui est faite, qui va tenir plusieurs mois, et quand chacun est passé par la maison de Fauvette et Étienne, il se retrouve au café de Bosco, qui est l'un des 7 amis, et proche de la famille d'ailleurs, pour boire le verre de la promesse. Donc on est sur un roman donc complètement intemporel, sur la promesse, sur prendre le temps, sur vieillir.
L'amitié aussi, l'amitié, certainement.
Voilà, ouais. La solidarité dans un village. C'est un magnifique roman, assez court. Voilà, et on n'est pas encore dans cette ambiance de guerre. Hein, et déjà, on est dans une écriture très dépouillée, très forte. Quelques mots, on est à l'essentiel, des descriptifs. Tout en finesse, c'est délicieux, et voilà, et ça nous fait vraiment sourire.
As-tu une idée pourquoi le choix de Georges Chalandon d'écrire sur cette région? Je sais qu'il est venu au salon à Laval, hein, il est venu dans des salons du livre. Alors,
je pense me souvenir qu'il vit en Mayenne, ou qu'il a vécu en Mayenne, et d'ailleurs, il a été président du Festival du Premier Roman de Laval.
Oui, voilà. Il y a peut-être une relation de cause à effet, du coup. Alors, c'est intéressant, parce qu'on peut faire un peu le parallèle avec le quatrième mur, où on parlait de... Même là, si on est dans la guerre, hein, dans le conflit, il y a aussi d'abord une très grande histoire d'amitié au départ, puisque le héros du livre, hein, Georges, se lie d'amitié avec un homme qui s'appelle Samuel, j'y reviendrai tout à l'heure. Il y a aussi donc cette amitié très forte, après cette solidarité. Il y a plein de points communs, même si on est dans deux univers complètement différents. Je pense que on pourrait faire la comparaison dans ces deux livres, qu'on retrouve les sentiments profonds qui ont pénétré cet auteur. Et d'ailleurs, c'est intéressant, hein, quand on l'écoute, Georges Chalandon, c'est quelqu'un de très humble. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de l'écouter, hein, on peut trouver facilement sur Internet, il y a pas mal d'interviews de lui. C'est quelqu'un de très simple. C'est pas un grand bonhomme, je dirais, comme ça, et qui n'en impose pas, et c'est très intéressant. Et je pense que ça se retrouve aussi dans ses écrits.
Oui, il dit bien d'ailleurs, il a ce côté journalistique d'être observateur du monde, hein, avec aucun jugement. Il ne juge pas les hommes, il ne juge pas l'humanité, malgré toutes les exactions auxquelles il a pu assister. Et donc il est vraiment dans cette humilité, simplement d'observer, de vouloir rapporter ce qu'il voit, de vouloir interpeller. Après, chacun, il met bien sûr ses émotions. Donc, il garde cette grande humilité face à l'humanité, hein, et à toutes ses beautés, ses solidarités, ses histoires d'amitié, de promesses tenues, et face à tous ces conflits meurtriers.
Oui. On peut peut-être parler de ces livres suivants qui abordent, je disais, la question irlandaise tout à l'heure, qui touche beaucoup plus, du coup, à son travail de journaliste.
Oui, alors c'est vrai qu'il a eu des romans finalement toujours assez autobiographiques, alors plus dans son histoire d'enfance, mais en tout cas voilà, dans une histoire, le traître, une histoire de trahison, un de ses meilleurs amis irlandais qui a trahi sa patrie et aussi ses amis en ayant un double jeu par rapport à son engagement politique local. Donc voilà, et Sorge Chalandon dit bien qu'il a eu besoin d'écrire Le Traître pour raconter cette profonde trahison qu'il a vécue lui-même. Voilà, donc Le Traître, magnifique roman également, hein, avec de la guerre et de l'humanité, voilà. Une histoire encore une fois d'amitié profonde.
Voilà, tout à fait, qui ressemble assez étrangement au quatrième mur dont je vais parler tout à l'heure. Alors on va peut-être s'octroyer une petite pause musicale. Alors je vais tout de suite donner, on va écouter un extrait, hein, de la troisième symphonie de Beethoven, dite héroïque. Alors pourquoi avoir choisi ce morceau? Et là je me rapporte au livre Le Quatrième Mur, où dans ce livre un homme décide de monter une pièce de théâtre, c'est Antigone de Jean Anouilh, hein, de monter une pièce de théâtre au Liban, à Beyrouth précisément, pendant la guerre civile qui a ensanglanté cette région, hein, depuis les années, le conflit a débuté vers les années 75 pour se poursuivre pendant un certain nombre d'années. Et donc ce personnage-là veut réunir des comédiens et du moins des gens qui vont interpréter cette pièce de tous les univers politiques, de tous les camps qui sont en conflit conflit là-bas à Beyrouth. Alors pourquoi avoir choisi cette aire, cet extrait musical de Beethoven? Parce que durant la guerre de Bosnie en 1993, il y a un chef d'orchestre français qui s'appelle Hugues Reiner qui a décidé de reconstituer l'orchestre de Sarajevo dans lequel on trouvait des Bosniaques musulmans, des Croates, des Serbes, et de les faire jouer alors que la ville était sous le feu des snipers et des forces serbes qui se trouvaient sur les montagnes aux alentours, et de faire jouer cette œuvre de Beethoven au sein de la grande bibliothèque de Sarajevo qui était complètement en ruine. Et on a des images assez folles de ces musiciens jouant parmi les débris de ce beau bâtiment à l'origine. Donc on écoute un extrait et on retrouve les livres de Georges Chalandon ensuite. Thank you. Voilà, on est malheureusement obligé d'interrompre ce morceau de Beethoven hein, qui fait 15 minutes, mais c'était simplement pour illustrer nos propos, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, la troisième symphonie de Beethoven, jouée justement à Sarajevo pendant le conflit des Balkans, c'était en 1993, où un chef d'orchestre français réunit tous les membres de cet orchestre de Sarajevo, qui comprenait des Bosniaques musulmans, des Croates, des Serbes, et en plein dans le conflit, il va les faire jouer dans la grande bibliothèque de Sarajevo qui était alors complètement en ruine. Alors ça, c'est une introduction pour revenir sur le dernier livre de Sorge Chalandon, très difficile à dire, d'autant plus que dans le quatrième mur, le héros, c'est Georges, qui est le narrateur. Alors le livre démarre où on présente, Georges se présente un petit peu, il dit qui il est, c'est un jeune homme qui a beaucoup milité dans l'extrême-gauche pendant sa jeunesse. On raconte pas mal de bagarres, je dirais même des bagarres qui auraient pu être très graves contre les militants d'extrême-droite. Hein. Georges rencontre aussi une femme qui est aussi militante, hein, qui s'appelle Aurore, qui est une petite fille d'une bretonne dont la grand-mère était aussi militante dans les usines de sardines de Douarnenez à une époque, hein, au début du XXe siècle, il y a eu des conflits aussi à Douarnenez. Donc il rencontre une femme très militante. Alors il y a tout ce parcours aussi de militantisme de ce couple-là qui milite notamment aussi pour la Palestine et plein d'autres choses. Donc ça, ce sont les premiers... les premiers chapitres du livre, et dans c'est un moment aussi où Georges rencontre un homme qui s'appelle Sam, qui va devenir son ami, qui est plus âgé que lui, qui va devenir son ami et quelque part son mentor, son frère même, qui est un grec juif. Il ne dira pas tout de suite qu'il est juif, mais on l'apprendra un peu plus tard, qui a vécu aussi le régime des colonels en Grèce. Il a même été lui-même torturé ou autre. Et ce Sam a décidé, lui, de monter la pièce de Jean Anouilh, Antigone. Hein, Antigone, c'est un personnage de la mythologie grecque. Hein, c'est un personnage aussi, je crois que la première adaptation de cette vie d'Antigone a été écrite par Sophocle. Hein, et puis après, il y a plein d'auteurs hein, qui ont retravaillé ce texte, et notamment Jean Anouilh ici. Et Sam décide d'aller à Beyrouth monter cette pièce et de prendre comme comédien tous les belligérants du conflit, puisque la guerre civile existe à ce moment-là. Nous sommes au début des années 80. Hein. La guerre civile existe à Beyrouth et au Liban en général, et Sam décide donc de trouver parmi tous les belligérants. Hein. Alors il y a des Palestiniens, il y a des chrétiens, il y a des druzes. Alors il y a tout. Ça oblige un peu à connaître hein, le milieu politique libanais de l'époque, et de prendre de réunir ces gens-là et de les faire jouer cette pièce de Jean Anouilh. Alors, c'est pas un choix complètement innocent hein, d'avoir choisi cette pièce-là, car dans cette pièce de Jean Anouilh, Antigone, en fait, tout le monde peut en tirer parti. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un personnage ou une action qui va mettre la pression sur un autre comédien, d'autant plus que là, il faut aller sur la pointe des pieds, étant donné qu'on a dans cette pièce, ce sont des ennemis qui vont jouer ensemble. Hein. Et c'est une pièce qui avait été aussi jouée, je crois, pour la première fois pendant la Seconde Guerre mondiale à Paris, alors que les Allemands occupaient la France. Et ce qui avait été très paradoxal, c'est que cette pièce qui avait été jouée avait à la fois plu aux nazis et avait aussi plu aux résistants, ce qui paraissait, chacun pouvait tirer un peu la couverture à soi. Et ici, c'est le cas. Sam veut que aucun des comédiens qui jouent dans cette pièce puisse s'approprier, je dirais, quelque chose qui le mettra en parallèle avec la situation politique de l'époque au Liban. Alors Sam y va, alors on ne sait pas trop ce qui se passe là-bas. Il revient quelques mois après, sauf qu'il est très malade et même il a un cancer extrêmement grave, et Sam demande à Georges, donc le héros du livre, s'il veut bien prendre la suite, hein, s'il veut bien aller à son tour au Liban et essayer de monter la pièce, puisque tout est prêt là-bas, les acteurs ont été trouvés, les laissés-passer ont été trouvés. Sam a fait tout un travail de terrain que l'on ne voit pas, que l'on ne lit pas dans le livre, mais qu'on découvre par la suite. Et quand Georges arrive au Liban, bah, y a un Libanais qui s'appelle Marwan qui le prend en main et qui qui va lui permettre de rencontrer les différents acteurs de cette pièce. Alors les répétitions commencent, alors il y a plein de choses importantes, c'est-à-dire qu'il faut réussir à passer les différents checkpoints, donc vous passez d'un endroit tenu par soit des Palestiniens ou des chrétiens ou autres, et à chaque fois, Georges doit présenter un laissez-passer, et ça lui arrive de montrer le mauvais laissez-passer, celui qui ne correspond pas à la couleur politique de l'endroit où il va, et puis c'est au risque de se faire d'ailleurs de se faire tuer. Et le tant bien que mal, ben, il réunit ses comédiens. Les répétitions commencent et au moment où on pense que les choses vont pouvoir se faire, hein, sur quelques semaines, les bombardements israéliens se multiplient sur la capitale, Beyrouth. Et quelques jours après, c'est l'envahissement des camps palestiniens de Sabra et Shatila, dont tout le monde a entendu parler. Donc voilà, la pièce en fait ne peut pas se mettre en place, les comédiens doivent s'éparpiller, chacun retourne dans son camp respectif, et Georges, le héros, va se trouver à rentrer dans le camp palestinien de Sabra, où il découvre l'horreur, hein, de ces femmes et de ces enfants qui ont été massacrés par les forces phalangistes chrétiennes, hein, soutenues indirectement par Israël et par quelqu'un qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui est Ariel Sharon, hein, qui a été l'ancien premier ministre israélien et qu'on accuse quand même d'avoir été un peu aussi, du moins à l'origine, mais d'avoir laissé faire les choses dans ces camps palestiniens. Et Georges va vivre ces moments terribles, il revient en France, et alors à ce moment-là, en France, ben, il pète les plombs, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît plus sa femme et ses enfants. On l'attend à l'aéroport avec le champagne, mais lui, il est tellement bouleversé par ce qu'il a vu, c'est qu'il ne peut plus retrouver une vie de famille normale, une vie de père normale, et il n'a plus qu'une envie, c'est de retourner au Liban, ce qu'il fera, et je conseil aux auditeurs qui nous écoutent et éventuels futurs lecteurs, bah, c'est de voir ce qu'il adviendra de la suite lorsque Georges retourne donc au Liban.
Oui, donc là dans ce contexte de Beyrouth, hein, et on le retrouve aussi dans le contexte de l'Irlande, hein, quelle que soit la guerre, en fait, Serge Chalandon dit bien que, voilà, que ce soit le Liban, l'Irlande, en tout cas le pays, à chaque fois dont il parle, c'est la guerre. Et que cette folie humaine, il l'a retrouvée partout. Alors, il dit bien que, voilà, il ne juge pas, simplement il regarde les hommes et il nous apporte cet éclairage. D'ailleurs, il y a une dimension journalistique qui est réelle et qui est très intéressante. Ça nous permet, quand on lit ces romans, des fois, de mieux comprendre aussi des situations complexes pour nous. Hein. Tu parles de Palestine. Ouais, voilà, il y a beaucoup de factions et de mouvements extrêmement complexes pour nous, avec des origines qui parfois sont oubliées tellement elles sont lointaines et intriquées. Donc on apprend beaucoup de choses aussi, et en même temps on prend un recul sur cette situation, et pour l'Irlande c'est pareil. On se dit, mais finalement, voilà, cette folie humaine est là partout, quel que soit le pays.
D'autant plus qu'ici, dans ce roman, on passe complètement du rêve et de l'utopie, puisque on peut imaginer, va-t-il réussir, Sam avant lui, et puis Georges qui prend le flambeau, va-t-il réussir à monter cette pièce? Et bon, il s'avéra que cette pièce ne sera pas montée. Après, la suite, je ne la raconte pas. Je voudrais juste peut-être citer ce qu'a dit Sors Chalandon dans une interview. Hein. Prend textuellement ce qu'il a dit. « Entré comme journaliste dans les camps palestiniens de Sabra et de Shatila au dernier jour des massacres, en septembre 1982, j'ai gardé pour moi ce qu'abandonne un homme qui marche dans du sang humain. Un journaliste doit rapporter les guerres sans les pleurer. Je ne les ai pas pleurées. Alors j'amène Georges d'où je viens, je lui offre mes larmes, ma colère, mes doutes, et surtout je l'envoie là où je ne suis pas allé, au plus loin de ce que la guerre arrache aux hommes. Le quatrième mur est l'histoire d'un enfer. Je me suis arrêté à sa porte, et je regarde Georges s'y jeter. » Voilà, je pense que tout est dit, hein, sur le livre.
Oui, et cette dimension d'écrivain qu'il a choisi d'avoir, on peut bien comprendre que c'est peut-être ça qui l'aide à revenir de ces horreurs de guerre, pour pouvoir exprimer des émotions que les grands reporters ne peuvent pas exprimer. Absolument. Et qui parfois les fait devenir fous,
C'est certainement un des... Certains auront dit que c'était un livre même presque trop fort dans ce dernier livre de Sorge Chalandon. Je le recommande vivement. C'est un des meilleurs livres que j'ai lus récemment. Et vraiment, on passe vraiment du rêve à l'enfer. C'est un récit aussi très sombre, très perturbant, qui laisse pas complètement indemne, parce qu'on se met vraiment dans la peau de ce Georges. Et après, on peut imaginer qu'il y a des choses qu'on n'oublie pas et qui peuvent effectivement complètement bouleverser une vie, notamment toutes ces images d'horreur de femmes, d'enfants massacrés dans tous ces pays du monde jusqu'à aujourd'hui.
Oui, donc beaucoup d'émotions et dans une écriture tout en finesse.
Merci Valérie.
Merci Daniel.
Voilà, au mois prochain. Et puis merci Gaëlle pour cette réalisation. Allez, à très bientôt.